Vous écoutez
RMC. Le film RMC de la Coupe du Monde, Jean-Louis Tour.
C'est la deuxième heure de ce film RMC de la Coupe du Monde. On est ravis d'être avec vous. On est le 25 décembre. C'est la journée des cadeaux sur RMC. Tout au long de la journée, on vous propose les meilleurs moments de l'année. Et là, on se fait plaisir avec cette Coupe du Monde au Qatar, avec Jeannot Rességuier, avec Arthur Perrault. On entre en plus dans la phase à élimination directe, des matchs couperets, des matchs qui nous ont fait trembler. Jeannot, on était à côté, oui, dans le stade à chaque fois. On a tremblé.
À cause de la clim.
Exactement. On va se remettre donc le samedi 10 décembre au stade d'Albaït, ce stade fascinant au milieu du désert. L'équipe de France affronte peut-être l'une des meilleures attaques de la Coupe du Monde. France-Angleterre sur RMC.
RMC, Coupe du Monde 2022.
Quart de finale, Angleterre-France.
Mbappé a fait la différence face à Rice. Il va le décaler sur le côté droit. Dembélé, Dembélé qui fixe Bellingham, qui va la mettre derrière pour Griezmann. L'enchaînement, Griezmann, Tchouaméni. Tchouaméni, la frappe, pourquoi pas.
Oui.
C'est venu de la gauche avec Kylian Mbappé, le décalage avec Dembélé, le relais de Griezmann et Tchouaméni qui l'avait au fond des filets. Pickford ne peut rien faire, c'est son deuxième but en équipe de France, son premier but sans un match officiel, son premier but en Coupe du Monde, et il est en train de lancer l'équipe de France après 17 minutes de jeu.
Et la joie d'Aurélien Tchouaméni qui vient célébrer ce but juste devant les supporters anglais en mettant les deux doigts sur ses oreilles comme s'il n'avait rien entendu, comme s'il n'avait pas ressenti la moindre pression sur ce tir. Voilà la joie de tout le groupe France aux côtés d'Aurélien Tchouaméni.
Donc pénalty peut-être à venir pour les Anglais. L'arbitre, Monsieur Sampaio, va vérifier.
Les gars, regardez.
En plus, il n'a pas le ballon.
Non mais n'importe quoi.
Ah, le pauvre Théo Hernandez.
Le ballon est trop long, il doit juste accompagner. Mais il ne doit pas faire une charge dans le dos comme ça,
on
les gars.
On ne peut pas dire que c'est épaule contre épaule. Non, il est trop dans le dos.
Non, il est dans le dos. Non, il met l'épaule. Il met l'épaule, mais il n'y a pas le ballon. Il a raison, Jérôme.
Il y a charge.
Il est tellement loin de l'action. C'est tellement rageant. Et surtout, il est tellement loin du ballon, pardon.
Surtout quand il va voir.
Attends, la décision. Il a vu les images. Il revient avec l'écran. Il va siffler. Pénalty. Pénalty pour les Anglais. Tout à fait logique. C'est normal. C'est logique sur ce long ballon pour Mount qui est rentré dans le jeu juste après avoir remplacé Anderson. Et donc, il va y avoir pénalty pour l'Angleterre et l'occasion de revenir à deux partout. Mount demande même un carton jaune. Même Bellingham est venu voir un carton jaune. Mais comment est-ce possible? Il est en train de dire le jeune milieu de terrain de Dortmund. Le pénalty à suivre. Donc pour les Anglais, la possibilité d'égaliser à deux partout. On a l'impression de revenir au mois de juin 2021. C'était un match de poule, souvenez-vous, contre le Portugal. Deux pénaltys pour Cristiano Ronaldo.
Il va mettre le jaune à Hernandez.
Avec la pression qu'il a reçue de la part des joueurs anglais. Alors, et de Bellingham, il ne peut pas faire autrement.
Ce qui est terrible, on parle de gestion d'émotion souvent. Hein. C'est terrible à l'ascenseur émotionnel entre le but de Giroud. On pense que c'est le but de la délivrance, sans doute de la qualif et derrière. Et Théo qui met ce coup, donc cette charge dans le dos.
Et attention Jean-Louis, hein, le deuxième pénalty de suite de Kane, c'est jamais facile. Hein. Deux pénaltys dans un même facile, match. Hein.
Mais c'est tellement rageant vu à quel point Mount est loin du ballon.
Il a le record au bout des pieds. Hein. Ouais. Il doit y penser un peu. Hein. Il a égalisé, roulé 53-53.
Exactement.
Voilà. Exactement. Et quelque part, il doit certainement y penser qu'il a la possibilité de devenir le meilleur buteur de l'histoire du foot anglais en sélection pour les Three Lions. Donc ça veut dire que dans sa tête, il est en train de calculer comment il va faire. On aperçoit Beckham, lui qui se prend la main. Les têtes entre les mains, on remonte les chaussettes tranquillement, on discute, on laisse tout simplement les joueurs palabrer ensemble avec notamment Olivier Giroud et Bellingham. L'arbitre lui est allé voir Hugo Lloris.
C'est rageant. Avec le premier pénalty, ok, ils te mettent en difficulté, bravo, mais là non.
Sur un ballon comme ça, anodin.
Allez, Hugo, c'est maintenant.
Hugo Lloris pour pourquoi pas nous réaliser l'arrêt. Sinon on est à la 83e minute et on ira sur une
prolongation. Alors pas à droite.
Tu crois qu'il va la remettre au même endroit?
Ouais, il
la
remet au même endroit.
Tout à l'heure il l'a mis à la droite d'Hugo Lloris, il l'a pris à contre-pied.
Il va pas la cadrer.
Allez, on va le suivre en tout cas. Maintenant, la course d'élan c'est toujours la même. Il y a 3-4 pas de recul avec Harry Kane face à Lloris, le coup de sifflet d'arbitre. Harry Kane qui se concentre, Harry Kane qui ne bouge pas, qui va accélérer.
Oui.
Harry Kane on tape quand tu ne cadres pas comme ça, mais c'est parfait pour l'instant, tout va bien, ça fait toujours 2-1 pour l'équipe de France.
RMC,
Quart de finale, Angleterre-France.
On a tremblé jusqu'au bout. On s'est demandé à un moment donné dans ce match comment on allait faire pour le gagner, mais on l'a bien gagné 2-1, Jeannot, cette rencontre face à l'Angleterre. Est-ce que ça restera parmi tes matchs de Coupe du Monde que tu as commenté oui. comme l'un des plus marquants?
Oui, parce que déjà c'est l'Angleterre, donc du coup c'est un match un peu particulier pour tous ceux qui sont, franco-français, fans du cocorico, que ce soit le crunch du rugby ou les matchs d'opposition avec l'équipe d'Angleterre pour le football. Et donc on était vraiment dans le doute parce qu'on s'est dit cette équipe-là a quand même du matériel. Elle a fait finale de l'Euro chez elle à Wembley et cette équipe-là a quand même été impressionnante sur la première partie de son parcours. C'est un match chirurgical. Moi, ce match-là m'a fait penser à France-Belgique de la demi-finale de la Coupe du Monde de 2018. Bon, il y a cette frappe magnifique de la part de Tchouaméni qui nous dit ou qui nous envoie ce message fort en disant voilà, il est en train de grandir un peu plus. Il nous met une frappe venue d'ailleurs et ça va au fond des filets et ça fait 1-0. Mais malgré tout, on se fait bouger.
Ouais.
Et malgré tout, on se fait bouger aussi en deuxième période. Il y a cette égalisation de la part des Anglais avec Harry Kane. Et puis encore Olivier Giroud. Voilà. On parle de Kylian Mbappé, on parle de Giroud dans cette Coupe du Monde, dans le rôle important qu'ils ont eu, mais des rôles de façade. Parce que Griezmann a eu un rôle, lui, on va dire un petit peu plus sombre. On l'a pas trop vu par rapport au fait qu'il l'a pas marqué ou qu'il n'a peut-être pas été plus décisif que ce qu'on pensait. Mais il a été décisif dans le match. Et là, c'est vrai que bon, c'est lui qui met le ballon sur la tête de Giroud. Et quand on revoit les images et qu'on les revoit, le bonheur de Giroud, le bonheur de Griezmann, Mbappé qui vient lui claquer le visage pendant ouais. je ne sais pas combien de fois pour fêter le but avec lui, là on se dit ça va, on est capable de.
On se dit aussi, il ne peut rien nous arriver, surtout quand il y a ce pénalty d'Harry Kane, Arthur,
c'est
face
incroyable.
À Hugo Lloris, ouais. son partenaire de club, le risque était énorme.
J'ai envie de dire.
Qu'est-ce qu'on l'a aimé, Harry Kane
On ne s'est jamais autant emballé sur un pénalty raté, je crois. Mais ce qui a été incroyable, c'est qu'avec du recul, on a l'impression que l'avant-match a été plus important que le match. Parce qu'il y a eu, cette histoire du télégraphe, le plan anti-Mbappé, pour avoir vécu les coulisses de cette information, où tu as l'adjoint qui, la veille de la rencontre, vient faire du off, ce qu'on appelle dans le métier avec les journalistes pour leur dévoiler un peu ce plan anti-Mbappé. Quand il y a l'histoire de Lloris qui est un peu le maillon faible de cette équipe de France sortie par la presse anglaise aussi, en fait c'est ça qui nous a boosté.
Ouais.
C'est ça qui nous a boosté et c'est sans doute à ça qu'on pense au moment où il y a ce pénalty, ce face-à-face entre les deux coéquipiers à Tottenham.
Et Kane a raté. Et on est passé. On se remet
non,
dans.
Non, non, Kane n'a pas cadré.
Il n'a pas cadré.
C'est ce qu'il
a
dit sur le tour, ce jour-là.
Sur le moment.
Oui, je l'avais annoncé. Avant,
oui.
pendant.
Merci, Jeannot, de le rappeler.
Mais oui, mais c'est la vérité.
Kane qui n'a pas cadré, donc. Et ça nous a régalé. L'équipe de France qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde. On se remet dans l'ambiance du moment, dans l'émotion du moment également, avec l'after le soir de cette victoire des Bleus, le samedi 10 décembre. Donc, les Bleus ont battu l'Angleterre 2.
Il y a une question qui va arriver quand même dans les jours qui viennent, ce sera la suivante. C'est est-ce qu'on considérera un mondial réussi si tu es éliminé par le Maroc?
Ben oui, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que ce soit
réussi maintenant en demi-finale?
Comment tu veux que ce soit pas réussi? Tu as gagné, tu reviens, t'es encore en demi. Si le Maroc fait un exploit, tu dis bravo le Maroc et on passe à autre chose. Cette équipe de France, elle dégage quelque chose de très positif. Les gars sont tous super. Ça joue mieux qu'il y a 4 ans. Bon, moi en plus, moi tu me diras, j'imaginais pas non plus le Maroc battre l'Espagne ni le Portugal, donc j'ai encore plus de mal à imaginer battre les Bleus. Mais s'ils sont dans un moment historique et qu'ils continuent à entretenir leur histoire, on leur dira bravo, on sera très content pour eux. Et puis voilà. Mais je crois pas qu'on dira la Coupe du Monde n'est pas réussie. C'est-à-dire qu'est-ce que dans ces cas-là, si la Coupe du Monde n'est pas réussie pour les Bleus en cas de défaite contre le Maroc, elle est quoi la Coupe du Monde pour l'Allemagne, pour le Brésil, il faut quoi qu'ils se jettent tous du pont, les mecs. Non, bien sûr que ton mondial il est déjà réussi.
Alors,
tu vas jusqu'au bout. Tu veux dire que même dans le pire du pire des cas, tu fais la petite finale. Donc tu vas au bout de ta Coupe du Monde. Tu vas au bout du chemin. Enfin, bien sûr que c'est
un mot
réussi.
Des Anglais, les gars. Julien Laurence nous rejoint. Il est toujours au stade. Julien, bonsoir.
It's coming home.
Bah, eux ils rentrent à la maison, ça c'est sûr. La Coupe, non, mais eux, oui.
Tu sais que Manu, il n'a pas apprécié les Anglais qui chauffent.
Il y en a plein qui
n'apprécient
pas en Angleterre. Non, des anciens joueurs qui parlent trop. Et qui Moi, je connais toujours l'adage. Quand tu n'as rien à dire, vous me fermez sa gueule des fois. On lui dit des conneries. Toi,
oui, ils avaient un truc à dire.
Non, mais si c'est pour simplement fracasser, je veux dire, tu as été joueur quoi, à un moment donné. Quoi. Je veux dire, oh.
Alors ils sont très frustrés ce soir. Alors déjà ils sont frustrés par l'arbitrage. Déjà très frustrés par l'arbitrage, très mécontents contre l'arbitre, que ce soit les joueurs, Southgate, les journalistes, les médias, les télés ou les radios anglaises, les journaux aussi.
Très remontés contre. Ils font un petit somme belge là.
Ils nous font un petit, effectivement, ils nous font un petit l'arbitre pas au niveau.
Sérieux
Bah oui, ça fait partie, en tout cas, ça fait partie de leur
analyse
d'après-match. Alors, il y a surtout celui Ken en première période qui n'est pas donné par la VAR, celui de Upamecano quand Upamecano se fait prendre un petit peu de vitesse.
Ah, celui-ci,
par,
oui.
Celui-là, voilà. Donc, c'est vrai, ils l'ont un peu mauvaise, mais je pense qu'ils l'ont mauvaise aussi parce qu'ils ont bien joué. Il faut reconnaître qu'ils ont bien joué ce soir. Il y a des moments où c'était vraiment la meilleure équipe sur le terrain.
Oui, moi, j'ai dit, les Anglais ont été très longtemps supérieurs dans ce match. Mais tu veux que je te dise, je pense qu'ils peuvent faire encore mieux. Et qu'ils ont été un peu sur la retenue.
Et que,
comme a dit Gilbert tout à l'heure, les Français, ils mangent un peu la tête des autres. Et il y a eu des moments où, franchement, les Anglais, ils pouvaient presser plus. Cette équipe de France, elle était prenable pour eux. Après, c'est sûr que les Français rentrent dans la tête de l'adversaire. C'est-à-dire, le mec, tu sais que quand Giroud marque le but de la tête, là, qui est ballon dévié par Maguire, hein, quand on revoit bien, s'il n'est pas dévié, je pense que Pickford la prend. Bon, bref, peu importe. Giroud, il est au milieu de quatre Anglais. De quatre Anglais, putain. Une action, mais jamais les Anglais doivent prendre ça. Et ils le prennent.
Il mange un peu Maguire, d'ailleurs.
Et il y en a qu'un qui joue le duel, c'est Maguire.
Ouais. Mais il est un peu en retard aussi.
Hein.
Il est en retard. Les autres sont pas. Les Anglais laissent passer leur chance, Julien, parce qu'ils sont au-dessus, ils ont un péno pour revenir à 2-2, ils jouent super bien, mais ils vont pas à fond, ils vont pas au bout de leur truc, ils vont pas au bout de leur chance.
Ils ont pas le côté tueur que cette équipe de France a, par exemple.
Exactement, ils ont pas assez confiance en eux.
Est-ce qu'il leur manque et il faudra apprendre.
Côté tueur, les gars, je vous trouve dur quand même. C'est Hugo Lloris qui a été le meilleur joueur côté français ce soir, non?
Oui, mais justement.
Mais ils peuvent faire
côté tueur, il y a quand même un gardien qui fait son job aussi. Non, ils ont cadré les mecs.
D'accord, mais bon, tu dois quand même. À un moment, t'as le dessus.
Je t'aurais suivi, Julien, si ils avaient raté des occasions incroyables, ils n'avaient pas cadré, ils avaient vendangé. Comme la tête de Maguire, là, il doit la mettre au fond, celle-là.
Celle de Ken aussi, en première période, sur les rangs de Mécano aussi.
Et là, franchement, ils peuvent s'en vouloir. Mais derrière, t'as un gardien qui fait son taf.
Je vois Giroud dans les bras de Deschamps, putain, il n'est pas rancunier, Giroud.
Mais c'est lui qui a démontré à tout le monde qu'il n'était pas rancunier sur beaucoup de domaines, sur beaucoup de circonstances.
Ouais.
C'est comme dans la cour de récré, Daniel. C'est le plus intelligent qui cède toujours.
Je crois que
sa foi l'a beaucoup aidé également.
Alors chez les Anglais, il a fait l'interview, il parle même de son autobiographie. Il a dit moi j'ai toujours cru, je always believe, comme le titre de mon autobiographie d'ailleurs. Donc il s'est placé un petit peu
petite
avant Noël.
Promo, bien joué.
Avant Noël, promo avant Noël, très intelligemment.
Ça va être un carton, très bien joué.
Ah bah là c'est sûr. Mais par exemple, les Anglais sont fascinés par Giroud, qu'à 36 ans il puisse marquer ce but là où il est pas bon dans le match. Il faut reconnaître, il a l'occasion avant que Pickford sort sur la remise de la tête de Dembélé, mais sinon il va au duel, bien sûr qu'il est là au duel, il est important à ce niveau là parce qu'il pèse aussi un petit peu sur une défense, mais il y a quand même rien, et qu'après il surgisse pour marquer ce but là à la 79e minute à 36 ans en quart de finale de Coupe du Monde contre une équipe qui est meilleure que la tienne.
Certainement qu'il a dû voir les remplaçants aller s'échauffer. Il pensait que c'était ses derniers instants sur le terrain. Et juste avant, il y a cette énorme occasion qui est sauvée par Pickford.
Je profite de la présence de Julien pour parler un peu des Anglais quand même. Parce qu'avant que tu arrives, on disait, en début d'after tout à l'heure, que peut-être que les Anglais se sont un peu fourvoyés en se concentrant trop sur Mbappé, le fameux duel, sur le côté, tout ça, en oubliant un peu Griezmann, en oubliant un peu Giroud, qu'ils ont un peu dénigré. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Un peu dénigré. T'es gentil, toi.
Beaucoup dénigré, surtout Griezmann. Je leur en ai assez parlé de Griezmann et ce nouveau rôle qu'il a pour qu'il soit prévenu. Et pourtant, qu'est-ce qu'il leur a fait, notamment en première période, incroyable. D'ailleurs, à la mi-temps, ils étaient à la pause, ils étaient subjugués par le talent de que ce soit Micah Richards ou Jermaine Ginas ou tout. C'était vraiment, ils avaient que le nom de Griezmann à la bouche et à juste titre. D'ailleurs, Kylian, il les met à l'envers sur le premier but. Que tu sois à 3 sur lui comme ça, quand il fait le 1-2 avec Upamecano.
On l'a pas assez dit ça.
Après, ils sont à l'envers. Ils sont déséquilibrés complètement. Ils courent après le ballon. Ils sont tous en retard. Et Tchouaméni marque parce que Bellingham est en retard, parce que Bellingham a fait l'essuie-glace après qu'il soit monté à 3 sur Kylian.
Absolument.
Et que Kylian, avec un simple 1-2 avec Upamecano, et après il dribble Rice, qui se fait engueuler d'ailleurs après par Pickford. Et voilà. Et Kylian ne fait pas un bon match. Mais juste à ce moment-là, il a fait ce qu'il fallait, même s'il n'est pas directement impliqué, c'est pas une passe d'ess, mais le déséquilibre qu'il crée sur le premier but, sur celui de Tchouaméni, ça suffit presque quasiment, tu vois. Et je pense que les Anglais, effectivement, à un moment, ont trop parlé, ça c'est sûr, Manu a raison. Se sont trop focalisés aussi, ont été trop obsédés par Kylian. Et après, c'est vrai que le rôle de Griezmann, il l'avait, je pense, vraiment, vraiment sous-estimé. Et ensuite, je pense que, en première période notamment, tactiquement, Deschamps a bien joué le coup en mettant Rabiot sur Henderson, en mettant Tchouaméni sur Bellingham. On les a frustrés aussi à ce niveau-là. Et je veux pas. Le Sylvain Paul anglais, je pense que c'est pas de sa faute si Kane rate le penalty et tout ça. Mais je pense qu'à un moment, quand ils avaient cette période vraiment forte, quand ils étaient en ce moment fort, c'est là où il aurait dû faire entrer tes joueurs. De faire entrer Rashford à la 80e minute, franchement, c'est une honte.
Julien, justement, on a fait le débat il y a quoi, 10-15 minutes sur Didier Deschamps, parce que moi, je lui dis, mais pourquoi vous voulez qu'il parte, le garçon? Il fait des choses incroyables avec l'équipe de France depuis qu'il est sur le banc de touche. Est-ce que, logiquement, on peut poser la même question concernant Southgate?
Ouais. La question, on la pose depuis 10 ans.
Tout à fait. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'ils vont prolonger son contrat? Est-ce qu'il veut lui-même rester? Est-ce que tu vois cette défaite aujourd'hui comme un échec? Parce qu'ils viennent de faire finale, demi-finale sur les deux derniers tournois, et là tu t'arrêtes en quart de finale. Est-ce que tu penses qu'il y a une progression?
Il y a un plafond de verre, en fait.
Clair, il y a quelque chose qui...
Moi, je vous l'ai dit, la dernière fois qu'ils ont battu, il va exploiter cette génération parce qu'elle n'a pas d'égal dans le monde. Le groupe, le 11 qu'ils ont là et les mecs qu'il y a sur le banc, c'est unique. Il faut un sélectionneur qui leur fasse comprendre
que c'est les meilleurs. Ils ont un réservoir impressionnant.
Ils ont un réservoir qui est beaucoup
plus
fort.
Mais ils n'arrivent pas à franchir le palier supérieur des grosses nations que tu rencontres dans ces matchs à élimination directe en Coupe du Monde. On l'a rappelé la stat, c'est pas pour les... Mais voilà, depuis 66, ils n'ont jamais battu une grosse nation.
Cette équipe n'a toujours pas gagné de grandes compétitions. Ils n'arrivent pas à se convaincre qu'ils ont le potentiel.
Finalement c'est eux qui sont complexés au final. Ils ont abordé le match avec franchement leur début de rencontre, le premier quart d'heure jusqu'au but de Tchouaméni. Les Français dégagent une confiance. T'es là, tu regardes les Anglais, et les gars, pourquoi vous les agressez pas? Pourquoi vous rentrez pas dedans? Qu'est-ce que vous faites? Et ils ont mis très longtemps à rentrer dans le match, les Anglais, alors qu'ils ont des qualités partout au milieu de terrain. Mais je suis désolé, mais Bellingham, Rice et Anderson, c'est bien meilleur que notre milieu de terrain ce soir. Bien meilleur. Sauf que le milieu de terrain des Bleus, il s'est accroché et ils se sont accrochés comme des chiens, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils étaient en dessous. Et les Anglais, au final, ont pas pu profiter de ce qui semblait devoir être une supériorité, quoi.
Julien, concluons avec toi sur Harry Kane. Donc évidemment, pote d'Hugo Lloris. D'ailleurs, Lloris a dit après le match, ça me désole de voir Harry Kane comme ça à la fin du match. Si on revient sur le penalty, est-ce que tu estimes que le fait que les deux gars se connaissent par cœur a joué dans le raté de Kane?
Non.
Alors, juste je vous parle du match contre Francfort avec Tottenham en Ligue des Champions il y a deux mois, où il marque un premier penalty en première période, il a un penalty à la fin, 90e, et il fait exactement la copie conforme du penalty d'aujourd'hui. La même. Il frappe fort, trop fort, un peu en arrière, et le ballon il part sur l'autoroute. Et je sais pas s'il a un problème pour tirer deux penalties dans un match, je pense qu'il en a déjà marqué deux dans un match.
Ouais, c'est pas là, facile, même... deux dans un match, ça n'a jamais été simple. Hein.
Et je sais pas, Hugo part du côté droit, là où...
Est-ce qu'il fallait le faire tirer, en fait, le deuxième?
Je sais pas. Les Anglais disent là, ça pouvait pas être quelqu'un d'autre que lui. Il était sur le terrain, ça pouvait être que lui. On avait tous confiance en lui. C'est normal qu'il ait pris ce deuxième penalty. Je sais pas. Moi, je l'ai trouvé nerveux. Peut-être qu'il a aussi attendu que la VAR et que l'arbitre aille voir, alors que c'est un penalty tous les jours. Hein. Je sais même pas pourquoi l'arbitre ne donne pas le penalty direct sur la.
Sur celui-là.
Voilà, je suis désolé.
Ils ont mis longtemps à le décider.
Peut-être que ça a monté, alors qu'ils savaient très bien qu'ils allaient le donner, le penalty, parce que il était assez flagrant. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si la pression à ce moment-là est trop forte.
C'est au moment où c'est intervenu, en fait, en sachant que l'équipe de France venait de reprendre l'avantage. Il restait quoi, 7 minutes avant la fin du temps réglementaire. Et dans sa tête, il a dû se dire, c'est probablement une des rares occasions vraiment pour revenir dans ce match-là à égalité, en sachant que le chronomètre joue contre toi. Donc c'est à l'image de ce qui se passe dans les séances de pénalty où tu pars du milieu de terrain pour l'open pénalty. T'as l'impression que le monde s'écroule sous tes pieds, que tout devient insupportable. Donc quelque part, pour moi, il l'a perdu sur le plan mental.
Je suis d'accord.
Voilà pour l'after donc, les Bleus sont qualifiés, les Bleus ont battu l'Angleterre 2-1 et désormais ont la tête vers le match face au Maroc, la demi-finale de la Coupe du Monde, historique pour le Maroc, premier pays africain à atteindre ce stade d'une Coupe du Monde. On se la remémore dans une seconde, restez avec nous dans le film RMC de la Coupe du Monde, à tout de suite.
Le film RMC de la Coupe du Monde. Le film RMC de la Coupe du Monde, Jean-Louis Tour.
On est toujours dans le film RMC de la Coupe du Monde avec Jeannot Rességuier, avec Arthur Perrault. On vous régale encore pendant quelques minutes avec le parcours des Bleus et place tout de suite donc à ce moment d'histoire. Histoire du foot marocain, histoire du foot africain. Le Maroc est la première sélection africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde. C'était face à l'équipe de France. On est alors le 14 décembre au stade d'Al Bayt et on vous remet dans l'émotion de cette demi-finale de Coupe du Monde sur RMC.
RMC, Coupe du Monde 2022.
Demi-finale France-Maroc.
Griezmann qui récupère le ballon dans la surface de réparation. Griezmann pour la mettre sur Mbappé. Mbappé qui frappe. Mbappé qui arrive, la deuxième frappe, la deuxième frappe. Ça revient avec Théo Hernandez. Oui, le but de Théo. Le but d'Hernandez. Le but du Jamel Gamin de la famille Hernandez. Théo qui ouvre le score. La frappe est contrée du pied gauche de la part de Kylian Mbappé. Du coup, ça revient sur Théo tout seul qui frappe dans un trou de souris. Boulou ne peut rien faire. Et l'équipe de France, dès la cinquième minute, qui ouvre le score grâce à Théo Hernandez.
Le ballon récupéré par l'équipe de France avec Tchouaméni. Tchouaméni, Fofana, attention, il pousse un petit peu trop loin son ballon. Allez, et Zazouli qui revient. Fofana qui tient toujours sur ses appuis, qui récupère le ballon. Mbappé qui fait la toupie, qui récupère la balle à gauche pour la donner à Thuram. Thuram le crochet qui va la redonner à Mbappé. Oui. Mbappé face à Amrabat, il n'y a pas de faute. Mbappé qui crochet. Mbappé qui continue. Oui. Le ballon deuxième poteau. Et le but de Colomboigny. À peine rentré. Premier ballon en embuscade. Et au deuxième poteau, Colomboigny qui est là pour le deuxième but, pour faire le break.
Voilà pour le match, les Bleus s'imposent 2-0, les Bleus ont souffert mais les Bleus sont passés. On va en discuter dans un instant avec Mustapha Hadji, légende du foot marocain qui nous a accompagnés pendant cette Coupe du Monde très régulièrement. Mais avant cela, ce qui s'est dit juste après la qualif des Bleus face au Maroc, c'est l'after de ce 14 décembre.
Il y a eu pas mal de problèmes dans les rues ces derniers jours suite au match de la Coupe du Monde. Précisons qu'ici au Qatar, et on va le voir tout de suite avec Martin Bourdin, il y a une fraternisation assez importante entre supporters français et marocains aux alentours du stade où a eu lieu la demi-finale, Martin.
Exactement, Gilbert. Il y a une cinquantaine de supporters marocains et de supporters français qui veulent plus quitter le parvis du stade Al Bayt. La musique vient de s'éteindre, mais depuis ça faisait une bonne demi-heure qu'ils étaient en train de chanter tous ensemble, de danser tous ensemble. Les drapeaux marocains, les drapeaux français qui flottaient les uns à côté des autres. Et en fait, ça représente bien ce qui se passe depuis tout à l'heure. Moi, j'étais en train de faire des interviews de supporters tout à l'heure, et il y avait des marocains qui venaient, des supporters français. Il y a des marocains qui venaient pour serrer la main des Français, leur dire félicitations. Dimanche, on portera le maillot des Bleus parce qu'on sera derrière vous. Voilà, il y a une vraie fraternité finalement entre les supporters des deux camps ce soir. Et franchement, c'est vraiment super sympa à voir et assez touchant aussi.
Merci Martin. Voilà, on signale quand ça se passe
magnifique.
Mal, signalons aussi quand ça se passe bien.
Bravo.
Exactement. Et pour l'instant,
priori, ça se passe mieux, la sécurité à Doha.
Tout se passe bien. Pour l'instant, apparemment, tout va bien aussi sur les Champs-Élysées.
Oui.
Espérons que ça continue.
Tant mieux.
Walid, tout à l'heure en début d'after, on disait que c'est toujours pareil dans ce genre de soirée historique. On a commencé à avoir l'habitude dans l'after. On a vécu la Coupe du Monde 2018. Il y a à la fois l'excitation et la satisfaction de se qualifier pour une finale. Et puis après, quand on regarde le jeu, en bon afterien, on n'est pas forcément super content. Alors, quel est ton avis général à toi?
Non, je rejoins totalement. C'est le paradoxe des champs, c'est-à-dire qu'il nous donne des émotions en termes d'accomplissement et de résultats. Mais quand on est devant la télé, c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que dans notre registre, dans notre métier, c'est très très dur de décrypter ce qu'on peut voir des matchs de Didier Deschamps. Et ce soir, ça en est encore la preuve. Mais il faut se satisfaire de l'accomplissement final, c'est-à-dire de faire un back-to-back en finale de Coupe du Monde. Je suis né en 93, j'ai vu aujourd'hui trois finales de Coupe, je vais voir ma troisième finale de Coupe du Monde avec l'équipe de France. Quand on entend les anciens, notamment, que ce soit sur RMC ou ailleurs, ils n'ont pas eu ce plaisir-là, donc il faut pas bouder ce plaisir.
C'était, tu voyais Allemagne, finale 82, finale 86, ils gagnent en 90. Voilà, les années 80, trois Coupes du Monde, les Allemands, eux, ils sont là, les Euros.
Ils nous ont bien fatigués, ceux-là.
Les Euros, ils les enchaînent. À un moment, t'avais Italie, demi-finale 90, finale 90. Voilà, c'était ça, dans les Coupes d'Europe, tu voyais. Là, la France, au niveau équipe nationale, est en train de faire un peu, effectivement, surtout depuis 98, ça va faire donc... il y avait la finale de 2006.
T'as
gagné un euro en 2000.
La finale de l'euro en 2016.
Coupe du Monde. finale. Encore finale cette année.
Vous avez de la chance, Walid.
T'es clairement une nation.
Les gars, je vous arrête.
Excuse-moi, Gilbert, mais on n'a pas du tout parlé du match parce que la grande réussite des Bleus, les actions qui sont assez folles à décrire, aussi bien le premier but qui marque que le deuxième, c'est un peu fou. Moi, je veux bien. Effectivement, on parle de la réussite qu'on doit contrebalancer avec le travail mental que visiblement fait Deschamps, puisqu'il n'y a que ça que les joueurs nous racontent. Même si, quand même, aspect tactique, mettons-le en avant. À un moment, la sortie de Giroud, c'est pour compenser le travail défensif que Mbappé ne faisait plus. Et donc, il a mis Thuram de ce côté-là pour défendre
Mbappé
un peu plus.
C'est plus le début de la compétition.
Oui, que Mbappé n'a pas fait, mais que Rabiot faisait.
Oui.
En étant naturellement porté sur ce côté.
C'est une autre articulation.
Il y a peu d'aspects tactiques dans les matchs de Deschamps, mais il faut quand même souligner ce côté-là, où peut-être a-t-il senti que les Marocains allaient finir par passer, et pourquoi pas égaliser.
Le même choix qu'il devait faire contre l'Angleterre avant que Giroud marque.
Voilà. L'essentiel du match, il faut quand même le dire, contre l'Angleterre, on l'avait souligné, les Marocains t'ont causé beaucoup de soucis. Techniquement, tactiquement, en pressant haut, tu as défendu très bas. Donc, je veux bien qu'il y a ce sentiment qui est un petit peu, je sais même pas comment dire, un peu irrationnel, de dire il peut rien arriver aux Bleus, tout va bien, tout va continuer à leur sourire, parce qu'en fait
d'ailleurs,
on sait
ce
pas.
Ce soir, c'est deux buts, deux tirs cadrés.
Parce qu'on sait pas, on sait pas réellement, on sait pas réellement quoi dire. Hein. Moi, c'est comme j'avais dit après le match contre l'Angleterre. Si on a 20 Deschamps à la tête des équipes de Ligue 1, on fait autre chose.
Moi, je
change de métier. Je fais des pizzas dans un resto, quoi.
Ah, mais regarde, Daniel, tu disais la même chose de Ray Gragui. Et aujourd'hui,
Non, j'ai pas dit la même chose que pour Deschamps par rapport à son approche permanente.
T'as dit, il se fait virer. S'il joue comme ça en championnat, il se fait virer au bout de 10 matchs. C'était hier, on l'a dit hier.
Je vais te dire la différence. Rigragui, je parlais de son approche.
Il a eu une autre approche.
Non, Deschamps, c'est qu'il y a des choses qui Ray Gragui, je peux t'expliquer mille fois. En plus, ce soir, pour le coup, il a pas du tout joué comme ça.
C'est ce qu'on disait.
Il fallait
pas le cantonner à ça.
Deschamps faisait avec ce qu'il avait. S'il y en avait 20 comme ça, c'est qu'en fait, comme il y a des trucs qui sont irrationnels, il y a quand même des coups de bol qui tombent du ciel. Ray Gragui, il a pas eu ça.
C'est différent.
Voilà, quand la balle, elle rebondit deux fois sur les mecs, elle arrive tout le temps dans les pieds. C'est un peu. Bon, bref, une fois qu'on a dit ça.
Ray Gragui, il perd sa défense centrale, surtout.
Il a tenté un pari à faire jouer un joueur qui était blessé.
En termes de vivier, c'est pas du tout la même chose que Deschamps. Hein.
C'est pas la même chose.
Il peut pas faire entrer un défenseur de Liverpool quand un défenseur du Bayern est blessé.
Voilà. Mais une fois que t'as dit la baraka, la chatte à Dédé, le machin et le truc et tout, je veux dire, combien de temps le foot ça reste irrationnel ? Dire à un moment, ça va. Attention, je dis, il faut se méfier parce que l'Argentine aussi a eu pas mal de réussites depuis le début de la compétition. Alors si l'analyse de ce mondial, ça n'est que l'analyse des coups de bol.
Oui, mais le problème, Daniel, c'est
méfions-nous parce que les Français, je les ai trouvés encore ce soir par séquence. Largement dominé par le Maroc, on n'a rien maîtrisé. À un moment, s'il se décidait à frapper au but, parce que à un moment, je sais pas ce qu'il voulait faire, il voulait plus frapper les Marocains.
À 1-0, il y a quand même Amala et le numéro 9.
C'est Lloris qui te sauve.
Qui remplace Nesri, qui a un rush où il balbutie un petit peu son football dans la surface des réparations. Il rentre tout seul, ça peut faire un partout.
C'est pas Bouclal, c'est pas le joueur de Toulouse sur le côté, c'est
le numéro 9 de Barry là qui est rentré, qui a remplacé
Barry, il était suspendu.
Oui c'est chez Dira, le joueur de Barry, mais en tout cas pour revenir sur ce que disait Daniel, le gros problème c'est quoi, c'est que il y a un paradoxe avec Deschamps, c'est que moi j'ai trouvé que la performance du Maroc a été vraiment admirable ce soir. Vraiment, je pensais qu'à 1-0, surtout avec cette physionomie.
D'ailleurs Walid, il parlait ton homonyme Ray Gragui de possession hier, et c'est finalement ce soir il est à 61%.
Et je trouve qu'ils l'ont très très bien utilisé, avec encore une fois une performance d'Ounaï incroyable au milieu de terrain, même Sofiane Amrabat. Mais le problème c'est quoi, c'est que en fait cette équipe de France, moi elle me laisse encore une fois plein de paradoxes. C'est que comme le dit Daniel, j'ai trouvé que l'équipe de France n'a a très très peu maîtrisé la rencontre. Quand on me dit c'est l'équipe de France 2018, pour moi c'est pas l'équipe de France 2018. L'équipe de France 2018 concédait beaucoup moins d'occasions. Cette équipe là avec le ballon faisait quelque chose, avec Pogba, avec Griezmann, avec Mbappé. Là aujourd'hui, que ce soit contre l'Angleterre ou contre le Maroc, moi défendre, il y a pas de souci. De toute façon, on avait bien compris aujourd'hui avec le but dans les 5 premières minutes, la physionomie de rencontre était totalement à l'avantage de Deschamps et de l'équipe de France parce qu'ils allaient user de contre avec Dembélé et Mbappé en vitesse. Mais c'est pas ce qu'on a vu, Gilbert. C'est que avec le ballon, comme contre l'Angleterre, quand tu l'as récupéré, eh ben c'était caricatural. Sur, on envoie des longs ballons sur Mbappé et on en fait pas grand chose, hormis les 10 dernières minutes où ils ont réussi à mettre à ce deuxième but là. Mais le problème, le constat, c'est que malgré ça, cette équipe là, quand on dit irrationnelle. Mais cette équipe-là, depuis qu'on la suit, mais pour gagner face à Deschamps, mais il faut faire des choses extraordinaires. C'est-à-dire qu'il faut que la Suisse revienne de 3-1 à 3-3 et gagne au tir au but.
C'est-à-dire qu'il faut proposer un truc encore plus fou.
C'est ça.
Il
faut que le Portugal fasse rentrer Eder pour aller gagner un match en finale de d'Euro. C'est-à-dire que même ça, pour battre cette équipe, il faut quand même des choses.
Voilà donc pour cet extrait de l'after. L'équipe de France s'est qualifiée pour la finale, mais les Marocains ont été héroïques sur l'ensemble de la compétition. On va en parler avec notre invité dans une seconde, mais juste sur le match des Bleus, Arthur et Jeannot. Donc on s'en sort bien et on se dit que Deschamps résiste à tout, à tous les éléments contraires, parce qu'il y en a eu encore ce soir-là.
Ben oui, puisqu'il y a deux malades, à savoir Upamecano et Rabiot, absents du 11 de départ. Déjà la veille, il y avait une véritable incertitude. Confirmation pour Rabiot, il reste à l'hôtel, il reste au camp de base, remplacé par Fofana. Et puis pour Upamecano, il est présent sur la feuille de match, mais bon voilà, le mot présent prend tout son sens. C'est Konaté qui est à côté de Raphaël Varane, et on apprendra à la fin du match que Coman lui aussi était fébrile, et c'était la raison pour laquelle finalement ça a servi quand même à quelque chose que Kolo Muani est entré à la 78e, et 44 secondes après marque ce fameux deuxième but qui libère l'équipe de France. Une équipe de France qui a souffert, c'est une évidence, qui a marqué vite. Alors parfois on dit que c'est bien de marquer vite, là c'était peut-être d'avoir marqué trop vite ou de ne pas avoir su aller chercher le deuxième but rapidement pour se mettre à l'abri, parce qu'on s'est rendu compte qu'au-delà du but de Théo Hernandez à la 5e minute, les Marocains ont continué à être présents. Certes, il y a eu la frappe de Giroud sur le poteau, mais il y a cette reprise acrobatique d'El Yamik qui va sur presque le poteau, et c'est le risque qui est juste devant son poteau. Il y a d'autres occasions encore dans la deuxième partie, et puis n'oublions pas que pour Walid Regragui, il y a quand même des conditions de jeu aussi importantes avec Aguerd qui finalement ne passe pas le cap de l'échauffement, ne se présente pas comme titulaire alors que c'était prévu. Saïs, le capitaine, qui au bout de 21 minutes de jeu fait signe je peux plus, et puis Mazraoui qui lui faisait partie aussi de ces joueurs en difficulté physique qui lui lâche prise à la mi-temps. Et malgré cela, il y a eu le caractère, il y a eu le tempérament de ces Marocains, à l'image de ce qu'ils ont su produire durant toute la Coupe du Monde, et ils nous ont fait douter jusqu'à ce que Kolo Muani mette ce deuxième but. Hein.
Le Maroc, la belle histoire de cette Coupe du Monde, la belle épopée marocaine, des joueurs qu'on a découverts, un sélectionneur qu'on a découvert. On va revenir sur tout ça avec notre deuxième invité dans ce film RMC de la Coupe du Monde, Mustapha Hadji, la légende du foot marocain, est avec nous. Salut Mustapha.
Bon, salut, ça va, vous allez bien?
Écoute, très bien.
Bonjour. Mustapha.
On est avec Arthur Perrault, Jeannot Rességuier, Mustapha.
Enchanté, et puis je vous salue, puis félicitations à vous.
Hein. Merci Mustapha. Et félicitations aussi au Maroc pour l'ensemble de cette Coupe du Monde. C'est un moment d'histoire qu'on a vécu pour le foot marocain, pour le foot africain.
Non, c'est sûr que cette équipe nous a fait vibrer, nous a donné des émotions exceptionnelles. C'est une équipe, comme j'ai entendu, de caractère. Et sincèrement, elle a rendu un pays heureux et fier. Et pour même le football africain, pour le continent africain, je pense qu'elle a été exemplaire. Et cette demi-finale, elle a été suivie non pas par le Maroc, mais par l'Afrique entière et tout le monde arabe. Je pense que cette équipe, elle a du mérite, malgré la défaite en demi-finale, ils ont fait un parcours extraordinaire. Et on les remercie en tant que amoureux du football, en tant que Marocain, en tant qu'ex-international. Je crois que j'ai jamais pleuré des joies de la, des joies, des larmes de joie. Et donc aujourd'hui, j'ai vécu ça de l'extérieur, mais c'est extraordinaire. Et puis, on les remerciera jamais assez.
Et puis l'engouement provoqué par cette équipe-là, par son parcours, par ses résultats, ne serait-ce que ici au Qatar et puis dans le stade où on s'est senti tout petit,
incroyable,
tout petit, ouais, petit par rapport à cette ambiance qui a été dans les tribunes mises en place par les supporters marocains un petit peu partout en France, en Belgique, en Espagne, dans les Pays-Bas. Je fais exprès de citer ces pays-là, des binationaux qui constituent justement cette équipe de Walid Regragui. Mais quelque part, au-delà de ce qu'ils ont réalisé sur le terrain, il n'y a pas une fierté globale pour le pays, pour le Maroc, pour tout ce qui a été fait en amont pour que le football se développe, des stades qui ont été construits, l'Académie Mohamed VI. Enfin, il y a plein de choses qui ont été mises en place il y a quoi, 10, 11 ans en arrière, et c'est finalement les fruits, vous récoltez les fruits de ce qui a été fait, de ces investissements avec le parcours en Coupe du Monde au Qatar, non?
Bien sûr qu'il n'y a pas de hasard. On ne vient pas, on ne fait pas les résultats en un mois ou deux mois ou trois mois. C'est un travail de longue haleine. Ça a commencé en 2009 avec la construction de l'Académie Mohamed VI. Donc oui, pas mal de joueurs sont sortis qui sont dans cette équipe. Et aujourd'hui, on récolte les fruits du travail. Donc le président qui a énormément fait de sacrifices, qui est Sa Majesté, qui a mis tout en œuvre pour avoir les infrastructures, pour pouvoir travailler, pour pouvoir développer le football, la formation. Et donc aujourd'hui, on récolte le travail. Et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Et nous, on est demi-finaliste de la Coupe du Monde, mais le public marocain est champion du monde. Sincèrement, le public marocain est champion du monde parce que j'ai vu une atmosphère extraordinaire. Et les Marocains, ils ont été exemplaires. Sur le terrain, on avait des joueurs. En dehors du terrain, on avait des spectateurs. Et franchement, je les remercie parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis en difficulté financière pour pouvoir supporter leur équipe. Ils ont fait des sacrifices, ils ont laissé leur famille, leurs enfants. Donc, moi, je retiendrai aussi l'homme fort de du Maroc, ce sera le public aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que le public a été pour beaucoup, il nous a poussé pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et tout ça, il faut que ça continue, il faut que ça donne un exemple.
Et Moustapha, on rappelle quand même, vous avez fait tomber le Portugal, l'Espagne, nul contre la Croatie.
Le parcours est fou.
Victoire contre la Belgique, vous avez fini devant la Croatie et la Belgique en poule.
Et Moustapha, tu as commencé à en parler, ça a été les derniers mots de Regragui en conférence d'après-match, où il a dit c'est un formidable pari sur l'avenir aussi. On a parlé du présent, du fait que tout ce qui a été fait par le Maroc a commencé à payer. Mais la suite de l'histoire risque d'être magnifique aussi pour le Maroc.
Oui, bien sûr, il faut garder les pieds sur terre et continuer à travailler. Parce que vous savez, le football, ce qu'il fait aujourd'hui n'est pas valable demain. Donc il faut se remettre en selle, il faut retravailler, il faut continuer, garder le même état d'esprit dans le travail, dans les exigences. Aujourd'hui, on a ouvert une grande porte à l'Afrique vis-à-vis de ce complexe qu'on a pu avoir en Afrique sur notre continent. Aujourd'hui, les gamins là, ils ont donné un exemple à suivre et aujourd'hui, la fédération et le football et les éducateurs et les entraîneurs, il faut qu'ils continuent à travailler parce qu'il y a comme ça. La France n'est pas arrivée par hasard. Aujourd'hui, la formation française, c'est la meilleure au monde, je le répète. Et ça a pas commencé hier. Moi, j'ai été formé dans le premier centre qui a été fait en France.
Moustapha, merci beaucoup. Merci pour ta disponibilité. J'ai dit la même chose à Wabi Kadri tout à l'heure, mais merci, franchement, vous. C'était top pendant toute la Coupe du Monde de t'avoir aussi souvent.
C'était un plaisir.
À très vite. Et on va se retrouver dans une seconde dans ce film RMC de la Coupe du Monde, par le gros morceau, par l'apothéose, par le final, la finale de la Coupe du Monde. France-Argentine, à tout de suite.
Le film RMC de la Coupe du Monde. Le film RMC de la Coupe du Monde. Jean-Louis Tour.
C'est la dernière ligne droite de ce film RMC de la Coupe du Monde. Et là, il n'y a plus rien à dire. On va vous laisser profiter. On fera pas mieux que le moment précis de la finale de la Coupe du Monde. C'était sur RMC, on était tous au stade, on s'est régalé. On est le 18 décembre dernier, moment d'histoire sur RMC, avec la finale de la Coupe du Monde France-Argentine et le débrief dans la foulée, dans l'after.
RMC, Coupe du Monde 2022.
Finale France-Argentine.
C'est parti pour le coup d'envoi de cette finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et la France. Premier ballon directement en touche vers Kylian Mbappé qui n'a pas pu se saisir de cette balle. Le centre de Di Maria, non, le crochet, il est passé face à Koundé. Cette finale de la Coupe du Monde et le sixième but de Messi qui devient meilleur buteur de la compétition. Attention au décalage, McAllister, s'il la met à gauche, il y a Di Maria tout seul, Di Maria tout seul. Quel bon enfant, Di Maria, 2-0 pour l'Argentine. C'est une leçon de football. Colomoni à la lutte, Colomoni peut-être l'accélération.
Colomoni,
pénalty. Qui peut changer le cours du match à condition de s'appliquer, à condition de la mettre au fond.
Là, c'est déjà un miracle. C'est d'avoir une occasion de revenir à 2-1.
Je te dis,
à 11 minutes
c'est
de la
un espoir individuel qui peut nous faire
quel
la différence. Kylian Mbappé, l'espoir est au bout du crampon. L'espoir de faire douter l'Argentine. Kylian Mbappé face à Martinez. Kylian Mbappé qui se jette pour aller chercher cette balle rapidement. 80e minute, l'équipe de France va peut-être ressusciter dans cette finale. Le retour de Coman. Coman qui a fait l'effort. Coman dans l'espace avec peut-être le ballon en face pour revenir dans l'axe. Oui, voilà, c'est fait. Rabiot le décalage avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui remise. Thuram qui l'a Mbappé pour Coman. Simplement sidérant ce qui se passe, c'est surnaturel, mais pourtant c'est bien réel. L'équipe de France, grâce à Mbappé, sur son doublé, qui revient dans le match et qui égalise. Le coup de sifflet de l'arbitre, il y aura prolongation.
RMC, finale, France-Argentine.
Messi, attention, jeu, Lautaro, l'arrêt de Messi, non, la frappe est arrêtée, il n'y a pas but, il y avait hors-jeu, mais qu'est-ce qu'ils font là?
Il montre but, ça va être checké, ça nous paraît évident qu'il y a hors-jeu. Mais là, il célèbre comme si le but était validé.
Mais ils vont se calmer, il y a enjeu. Moi, j'espère.
Il n'y a pas enjeu. Le but va être validé. 3-2 pour l'Argentine.
La frappe de Mbappé, elle est contrée.
Pénalty
pour l'équipe de France.
Pénalty pour la France.
Coup franc. Ou pénalty.
Il est bien jaune.
Pénalty. La frappe de Mbappé. La main de Montiel.
Incroyable.
Le coup de Montiel. Pénalty pour l'équipe de France. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Kylian Mbappé face à Martinez. L'arbitre lui fait signe à ce que tout le monde reste à l'extérieur de la surface de réparation. Avec encore une fois le coup de sifflet qui va venir. Mais d'abord, il faut sortir de la surface de réparation. Mbappé regarde l'arbitre. Mbappé a regardé le ballon. Mbappé a regardé Martinez. Mbappé qui s'élance. Oui! Kylian Mbappé qui marque le troisième but. Trois partout entre l'Argentine et la France. C'est fini, c'est terminé. Cette finale de Coupe du Monde va se jouer au tir au but. Premier tireur, Kylian Mbappé.
Oui, Kylian. Et voilà,
1-0.
Il peut lui en tirer 10, il va mettre les 10.
Au même endroit.
Il n'a toujours pas compris.
Coman face à Martinez qui bouge devant sa ligne. La course d'élan de Coman. Arrêt de Martinez.
L'Argentine prend l'avantage.
Tchouaméni face à Martinez. Et les drapeaux qui s'agitent derrière le but d'Emiliano Martinez. Faut pas le manquer celui-là.
Aurélien
Tchouaméni à côté. Aïe. Ça sent pas bon. Après 4 tireurs français, le quatrième, celui-là est argentin. Si ça va au fond, c'est pour l'Argentine, face à Lloris. Vas-y Hugo, Hugo fait là, Hugo sort là, avec la course de Montiel. À contre-pied, c'est fini. L'Argentine est champion du monde. À la séance de tir au but, l'Argentine s'impose. 4 tirs au but à 2. L'apothéose du génie argentin, Léo Messi, qui rejoint Maradona après la victoire de l'Argentine en 86. L'Argentine triomphe en 2022 dans un scénario incroyable.
RMC félicite l'équipe de France de foot qui nous a fait rêver pendant 4 semaines jusqu'à une deuxième finale de Coupe du Monde consécutive. Merci les Bleus.
Merci les Bleus.
Merci les Bleus.
Merci les gars. Merci les Bleus.
Est-ce que ce match de légende, parce que c'en est un, efface un peu de la déception quand on est français, Lionel, toi qui es un de nos rares champions du monde.
Complètement. Complètement. J'arrive pas. Alors je suis déçu par comme Dédé, tu vois, sur le tu perds au penalty tout ça. Mais derrière, je me dis mais je peux pas. Je suis pas triste. Je suis pas triste parce qu'on a vu un match d'anthologie, sûrement le match de toutes les coupes du monde. Avec du recul, franchement, moi c'est hallucinant. Tu regardes ce que je disais, j'ai dit mais si c'était un mec, tu vas au cinéma, un mec il écrit un film comme ça, tu sors, tu dis bon, c'est pas possible le scénario, le mec il y
déjà,
comprend rien.
Déjà, ce serait une série en 12 épisodes.
Déjà. Et puis tu dis mais il se fout de nous quoi, ça peut pas se terminer comme ça. Le foot c'est pas comme ça, le mec il comprend rien, il nous raconte une histoire. Bon, voilà, c'est pour la belle histoire, le machin. Tu dis mais tu n'allais pas le voir, ça n'arrivera jamais. Le mec il sait pas ce que c'est que le football. Et ben voilà, ben c'est ça le football. C'est on a vécu aujourd'hui, donc je n'arrive pas à être triste, enfin d'avoir trop de tristesse parce que on a vécu un grand match. Et puis quelque part, ben je l'avais dit déjà, ok, on n'a pas cette Coupe du Monde, mais on a le sacre d'un grand joueur aussi. Donc écoute, pour un peuple, pour un grand peuple, et aussi même si le peuple français l'aurait mérité, eh ben écoute, j'arrive pas à être triste. C'est un truc de fou ce qu'on a vécu. C'est un truc de fou.
Daniel, d'accord avec Lionel?
Absolument. Tu sais qu'il y a quelques jours, on disait, et quand je l'avais dit, ça avait pas forcément été bien compris ou bien pris, mais j'avais dit il y aura quelque chose quand même de très particulier dans cette Coupe du Monde, c'est que le fait de voir cette Argentine avec tout ce qu'il y a autour et notamment Messi forcément en personnage central, champion du monde, je pense que ça va faire plaisir indirectement à beaucoup de gens dans le monde. Et c'est pas pour rien que la majorité des gens dans le monde étaient plus pour l'Argentine que pour la France. Et j'avais même dit en tant que supporter français, il y aura quelque part une consolation à dire que t'as perdu contre eux et contre Messi. Mais de là à imaginer que ce raisonnement-là viendrait au bout d'un tel match, évidemment que c'était pas prévisible. Mais je trouve que ça renforce mon raisonnement de base parce que je me dis, bah si en plus ça doit se finir comme ça, alors évidemment que moi qui étais déjà dans le camp de Lionel, je le suis encore plus à dire que oui, enfin, d'un point de vue du une fois gommé la passion du supporter, d'un point de vue du foot, quand t'aimes le foot et quand t'aimes son histoire, comme je l'ai répété toute la semaine, comme on l'aime nous, à le raconter tous les soirs, à s'intéresser à l'histoire de ce sport-là, des champions, des équipes, on a vécu un moment, déjà, ça fait 16 ans qu'on fait l'after, on en a vu des soirées, on en a vu des, on a vu les bleus champions du monde.
Là, t'es dans le top 3 des matchs les plus dingos, là.
On a vu des matchs de Ligue des Champions avec nos équipes, qui ont fait des trucs bien et surtout des trucs pas bien, des déceptions de ouf,
oui,
des
remontadas
folles, un Euro 2016 où tu
Daniel.
Perds.
Oui. Daniel, la frustration aussi, elle peut faire naître de la tristesse. Parce que moi, je suis d'accord avec la dramaturgie que vous mettez en avant et c'est vrai que c'était incroyable, surtout
oui, mais ça va
dans
passer,
le stade.
La tristesse, mais tu vois, quand, Sam, moi, ça va passer, moi, ta tristesse. À l'impact que tu prennes une claque et que certains sportifs, mais la plupart qu'on voit défiler à la télé depuis tout à l'heure, tu sais, dans tous les lieux publics où il y avait des supporters français, la plupart, au final, une demi-heure après, il sourit, il dit, mais on a vécu, on a participé à un truc de fou.
Émotionnellement, c'est un truc
et on a été acteur de ça, et on a peut-être été acteur de ça.
Est-ce que les gars, alors, est-ce qu'on a vu ce soir la finale de Coupe du Monde la plus belle de l'histoire?
Je crois, oui.
Pour moi, oui.
Parce que il y a dans les.
Je parle pas de finale.
Dans les finales historiques, évidemment. Le tournant historique du football, c'est la Coupe du Monde en couleur en 70, mais la finale était à sens unique. Elle est très belle en termes de jeu, mais elle est à sens unique.
Oui, c'est surtout la demi qui a été un match extraordinaire.
Voilà. Après.
2006 aussi, non, Daniel?
Daniel, au niveau de la dramaturgie.
Ah, avec le coup de boule, oui.
Au niveau de la dramaturgie.
Oui, mais bon.
Zidane qui rate, oui, Buffon même... qui sort la tête oui, de Zidane juste avant l'expulsion.
Là, c'est pire. Tu n'as pas des rebondissements aussi forts que ce soir. Et 86, il y a 3-2. Mais les Argentins mènent, ils sont repris par les Allemands. Mais on, franchement, à cette époque-là, alors, tu gérais les résultats grâce au temps mort et tout ça.
Il y a des gens qui vont bondir.
Il y avait moins de suspense. En termes de suspense, il n'y a rien. Il n'y a jamais eu plus fort que ça.
Je sais qu'il y a des personnes qui vont bondir. Charbonnier, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu parles de ce match-là? 98, c'était fabuleux. Mais rien à voir dans la dramaturgie, dans tout ça. Ah oui. 98, c'était... Oui, c'est fabuleux, c'est la première. C'était
un peu à sens unique.
Voilà, mais on a marché sur les Brésiliens comme on s'est fait marcher dessus par les Argentins.
98, c'est simple, les gars. C'est la première mi-temps de ce soir.
Exactement.
Plus une deuxième mi-temps, pareil.
Exactement. En fait. Sauf que
et là c'est fini.
Et là, la différence, c'est que les Français n'acceptent pas
ça. Pardon, mais les Brésiliens en 98, ils ont plus d'occas que les Français jusqu'à la 75e ce soir. Hein.
Ouais, mais ils les mettent
oui,
pas.
Bah, nous, on les met près.
Moi, je te parle d'occas. Là, les Français, ce soir, jusqu'à la 75e, c'est le néant total.
64e, première frappe.
Le néant total. Le match devient fou, comme je l'ai dit depuis le début. Le côté historique de ce match est rendu possible grâce à un homme, Kylian Mbappé. C'est l'Argentine contre Kylian Mbappé. Le reste de l'équipe de France...
Ah, je suis pas d'accord avec toi, Daniel.
Juste, on va faire le débat dans quelques instants.
Qui t'a trouvé de bon
d'abord,
à Paris, quoi.
D'abord, André est là au 32-16.
C'est 100%
André,
Mbappé ce soir, il n'y a que lui. Hein.
Non, je suis pas d'accord.
André, bonsoir.
Bonsoir, Gilbert.
Bon, est-ce que toi, tu fais partie des supporters, malgré tout, très déçus, où tu te dis que ce match était tellement incroyable que finalement, bon, bah, ça a tourné en faveur de l'Argentine au final, et on a quand même passé une Coupe du Monde sympa et une soirée exceptionnelle.
Ça tourne toujours pour toi, normalement, donc c'est bon, quoi.
Bah, c'est assez difficile, c'est un sentiment très difficile. Déjà, deux choses. On a vécu quand même un match extraordinaire, avec un scénario de dingue. Souvent, dans l'after, bah, j'écoute tout le temps, donc on parle des émotions. On a eu notre lot d'émotions ce soir avec ce match.
Ça, c'est sûr.
Mais c'est vrai que, comme disait tout à l'heure Daniel, très justement, si on analyse froidement, et Oussem l'a dit tout à l'heure aussi au début de l'intervention, si on analyse froidement le match, bah, on n'a pas été bon pendant 70 minutes, on s'est fait marcher dessus, les Argentins étaient archi...
Ils méritent largement leur victoire, les Argentins, il faut dire la vérité.
Oui, ils méritent, mais après, c'est vrai qu'on reprend espoir parce qu'on marque deux buts très rapidement.
Ah, mais que t'es l'espoir, que t'es la niaque, le courage et tout, mais il faut avoir le courage de dire que si on aime le foot a gagné ce soir.
Oui, c'est vrai, mais
c'est dur à entendre quand t'es supporter, mais c'est la vérité.
Oui, mais dans l'émotion, forcément, on se dit que c'est encore possible, mais c'est vrai que pour la première mi-temps, bah, les mecs étaient à mort, c'était assez bizarre, on se pose des... Enfin,
il y avait pas de
pressing, ils avaient les jambes lourdes, enfin... Comme si c'était un match de préparation d'été qui était très compliqué, où on n'arrive pas à faire le contre-pressing, les passes. Griezmann, j'ai trouvé très difficile à joindre entre les lignes. Il y avait, et là, on remonte assez loin à cette liste. On se dit, mais en fait, à part si Griezmann est entre guillemets, en bien pris, et si Mbappé, donc forcément, n'a pas de ballon, on n'a pas de créativité dans cette équipe. Donc, on remonte toujours avec le même problème, le système. Donc, je prends un peu le débat, je pense, c'est de savoir si... le Deschamps va rester, mais je pense que j'aimerais en tout cas voir autre chose.
Bon, évaluation les gars. Moi j'aimerais parler, et j'aimerais commencer par alors Mbappé, triplé en finale de Coupe du Monde, magnifique.
Ah là,
meilleur, meilleur français.
10 sur 10.
10.
Voilà.
Ah oui, Mbappé il est ouf.
Mais attends, là où il est d'autant plus ouf, pour en rajouter une petite couche, c'est à ce point, parce que presque plus que dans d'autres matchs, à ce point absent et pas présent et même pas dans le ton pendant... de longues minutes, parce que parfois il est quand même là, ça lui arrive aussi de rater des occasions. Là, ça n'a même pas été ça.
On l'a pas vu pendant quasi toute la première mi-temps.
Mais même dans l'attitude.
Tu le vois pas parce qu'il n'y a aucun ballon qui lui arrive. Les mecs sont mangés au
milieu. Enfin, il vient pas non plus, comme certains, ou aller les rechercher parce qu'il y en a pas.
C'est vrai que la défense, c'est qu'est-ce qu'il faut venir chercher
les ballons. Le match ne se déroule pas comme prévu, t'as le droit de changer les façons de faire. Donc, Benzema, par exemple, le ferait. Donc, si tu veux, Mbappé, c'est d'autant plus fou et fort de mettre un 10 à un mec qui, effectivement, pendant 70 minutes, a la tête baissée. Tu te demandes un peu ce qui va se passer. Mais en revanche, il y a quand même un truc qu'il faut dire, parce que je sentais aussi, tu sens arriver qu'Mbappé, dès que ça commence à mal tourner, ou tu penses que ça a mal tourné, ce qui semble être le cas, un vieux 3-0 pour la France, Mbappé transparent pour l'Argentine, et Mbappé transparent contre la France, tu commences à dire à Mbappé, le boulard, le machin. Lui, à chaque fois qu'il va rater un truc, il va s'en prendre plein la gueule parce que justement, il fait pas tous ses efforts.
Exactement.
Or, moi, je dis, je maintiens, je défends depuis des semaines et des mois avec Oussem, d'ailleurs, le personnage, y compris dans ses défauts, quand il a ses prises de parole partout au niveau médiatique, publicitaire et tout. Ce mec a un mental et une résistance à la pression exceptionnel. C'est très dur en dehors de techniquement de ce qui peut être. C'est très dur de faire ce qu'il a fait aujourd'hui parce que c'est même pas des buts dans le jeu, qui sait mettre. C'est le fameux face à face avec un gardien incroyable qui a fait déjouer tous les tireurs français dans la série, à qui il a mis trois fois le tir au but.
Du même côté en plus.
Non, ouais, mais franchement. Et en dehors de, je parle
un
même
petit reproche à lui faire quand même à la fin. Dernière occasion, là, il veut y aller tout seul en mode je dribble tout le monde dans la surface, alors que s'il lève la tête, il y a peut-être une ou deux solutions. Pour chipoter.
Oui, mais après ce qu'il avait fait l'autre fois et qui a donné la balle de but à Colomoigny, tu sais aussi, tu vois, c'est ce genre de truc. Mais bon, honnêtement, moi quand je dis à chaque fois, les gens commencent à dire oui, il va perdre. Et alors là, tout le monde, à chaque fois qu'il va perdre, enfin, pas de la manière dont il a perdu ce soir, parce que c'est finalement un match nul à la fin et c'est les tirs au but, on va lui tomber dessus à bras raccourcis dès qu'il va ouvrir sa gueule, dès qu'il va machin. Putain, les mecs, sans déconner, on se rend absolument pas compte si on tient ce genre de discours. Du type de joueur que t'as, du cyborg que t'as en équipe de France, quoi.
Voilà pour ce film RMC de la Coupe du Monde. Donc, on vous laisse là. Si vous êtes arrivé en cours de route et que vous voulez revivre des moments précis, des matchs précis, on va vous mettre les deux heures en podcast, dans le podcast de Rotten Sans Flamme. Et puis, on se retrouve très vite sur RMC. Les cadeaux continuent d'ailleurs avec d'autres best-of tout au long de la journée. Ciao.
Le film RMC de la Coupe du Monde.